Le digital, ça ne s'apprend pas dans des slides, ça ne s'apprend pas dans des comités, ça se pratique, c'est comme un sport, c'est une gymnastique quotidienne de pratiquer le digital.
Hello et bienvenue sur Minter Dialogue, épisode numéro 101. Aujourd'hui, nous sommes le 16 février 2020. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Et mon invité cette fois-ci, c'est PPC, Pierre-Philippe Cormorail, blogueur, podcasteur et influenceur reconnu. Dans cet entretien avec PPC, nous discutons de comment il arrive à mener sa présence en ligne, comment amener la transformation digitale en entreprise, le succès des podcasts, comment mieux conduire son podcast, Twitter et les médias sociaux, et plus encore sur l'influence.
Pierre-Philippe Cormorail, bon, c'est PPC pour tout le monde qui te connaît. C'est un plaisir de t'avoir sur mon podcast. Je pense que c'est la première fois. Et tu es un blogueur reconnu en France, podcasteur et grand influenceur digital. C'est moi qui le dis, PPC. Comment est-ce que toi, tu préfères te présenter?
Bonjour Minter, merci pour ton invitation. Très simplement, PPC, moi je suis un peu un explorateur du numérique, du digital. Je suis né en fait en 2005, PPC est né en 2005 sur les réseaux sociaux. J'avais raté la première vague d'Internet, je me suis plutôt rattrapé après à l'ère du web 2.0 et je me qualifierais plutôt d'un acteur qui teste tout ce qui passe en termes de techno et qui essaye de faire des choses avec, voilà, c'est peut-être quand j'étais petit, j'étais un fan de Lego et ça continue. Ben, j'ai gardé un peu ce sujet et j'ai plutôt en tête, et c'est, je pense, très important dans cette ère digitale, finalement, d'être toujours dans du learning by doing, c'est-à-dire de tester les choses et de regarder ce qu'on peut en faire derrière. Donc, effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Blogueur, podcasteur, youtubeur, voilà, on en parlera peut-être un petit peu, mais j'essaye depuis 2005-2006. Voilà, je suis sur Twitter depuis le 4 janvier 2007, donc ça commence à faire un bail, hein, ça fait 13 ans maintenant, de tester toujours ces choses, et merci à toi de ton invitation.
Ben, c'est un grand plaisir. Donc tu es quelqu'un qui walk the talk, et tu fais preuve de l'idée que, en fait, on n'avait pas besoin d'être né dedans, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut s'y prendre tard, entre guillemets, et être très bon. Et pour toi, la clé de succès, c'est le fait que tu es toujours en train de tester les choses?
Moi, je crois qu'on est rentré dans une ère où ceux qui savent, ce sont ceux qui font. C'est-à-dire que c'est pas, y a pas des grands sachants qui s'introniseraient grands sachants ou grands stratèges. C'est-à-dire que si on ne fait pas les choses par soi-même, on est dans une ère où c'est très compliqué de les comprendre. J'ai dit toujours, moi, que le digital, ça ne s'apprend pas dans des slides, ça ne s'apprend pas dans des comités, ça se pratique. C'est comme un sport, c'est une gymnastique quotidienne de pratiquer le digital. Et ce n'est, de mon point de vue, que comme ça qu'on peut le comprendre.
Aujourd'hui, quand on regarde les patrons dans les entreprises, il y a quand même une culture de la lecture. C'est-à-dire que je vais le lire et je vais l'apprendre ainsi. Qu'est-ce que tu en penses de ça ?
C'est en train de bouger, je pense. C'est-à-dire que je vais le lire, certes, mais je vais aussi le voir et on le voit chez certains patrons. Je vais aller sur le terrain, je vais aller rencontrer les acteurs, ceux qui font, et je vais essayer de mieux comprendre et après de faire, je dirais, de regarder par le détail comment ils font, de comprendre ce qui se passe et après de remonter pour avoir une vision stratégique. C'est compliqué aujourd'hui la vie d'un patron, hein. En fait, ça va très très vite, l'univers et l'environnement et l'écosystème bougent en permanence, l'accès à l'information il est multiple partout, et puis il faut qu'on gère en parallèle plusieurs choses, à la fois le commerce, la rentabilité de l'entreprise, les changements à faire avec des budgets qui sont pas extensibles, donc il va falloir faire des choix, des trade-offs, et pendant qu'on passe sur ces sujets de transformation, il faut aussi gérer le quotidien. Gérer une transformation, c'est aussi investir, et donc il faut gérer tout ça de façon extrêmement fine. J'ai tendance à dire qu'en fait on n'est plus en train de diriger diriger des entreprises, on est en train de les piloter. Et l'image que j'aimerais prendre, c'est un peu comme un, voilà, pour une voiture, il y a ceux qui conduisent une voiture, et puis quand vous êtes avec une voiture qui est rapide, et aujourd'hui les changements qu'on voit opérer sont extrêmement rapides, vous êtes plutôt avec une nécessité de savoir piloter. Donc on pilote une Ferrari, on conduit une Clio, ben aujourd'hui je pense qu'un grand patron, il doit être plutôt un pilote, et on le voit, ceux qui réussissent sont vraiment des pilotes qui gèrent ça de façon extrêmement fine, extrêmement agile.
Au niveau de ton expérimentation, comment est-ce que tu arrives à rester au courant de ce qu'il faut tester? Car en fait, il y a une espèce de pléthora de nouveautés, tu pars au CES, tu reviens avec 10 000 idées. Comment est-ce que toi tu choisis sur quoi tu vas t'investir et expérimenter, même si tu ne penses pas forcément l'utiliser dans ton travail? Tu veux essayer, tester, foirer, enfin, comment est-ce que tu choisis alors?
Je crois qu'effectivement, il y a une grande vertu au test and learn, hein, c'est-à-dire et même au fail fast, c'est-à-dire qu'on se trompe très, très vite. Je crois que quand il y a des technologies, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait en faire et qu'est-ce que ça change, en fait. C'est-à-dire qu'on a deux façons de regarder. Hein, c'est soit on démarre par, bon, mécaniquement, il faut qu'on ait un pourquoi, hein. Why et à quoi on sert. Moi, j'ai plutôt une capacité, avec là, c'est le recul et peut-être le grand âge, me dire je suis plutôt une personne qui est dans les processus de départ. C'est-à-dire qu'en fait, je fais passer de 0 à 1, et après, je suis sûrement moins bon pour faire de 1 à 2 ou de 1 à 10. Moi, mon sujet, c'est de partir souvent d'une feuille blanche, et c'est ce que j'ai fait dans toute ma carrière professionnelle, c'est de démarrer des activités. Là-dessus, je suis plutôt très bon pour les démarrer, et après, je laisse les rênes et les commandes à des gens qui sont eux aussi très bons, mais dans une autre séquence, dans la séquence de prendre des choses qui existent déjà et de les structurer, de les amener encore plus loin. Moi, je suis plutôt un homme de démarrer. C'est une qualité parce qu'on n'est pas très nombreux à savoir faire ça. Et donc, j'ai toujours une curiosité à me dire, tiens, il y a cette nouvelle technologie, qu'est-ce qu'on peut en faire? Chercher qu'est-ce qu'on peut en faire et comment ça peut venir servir des objectifs, une nouveauté et comment on peut, grâce à ces opportunités, parce que le digital, ce sont des opportunités, qu'est-ce qu'on peut en faire? Très typiquement, je te prends un exemple, quand j'ai vu sortir en 2017, ou même beaucoup plus tôt, pardon, 2016, je ne sais plus, enfin bref, c'est tellement, ça passe tellement vite, on n'a plus les dates. Une appli, elle était, on est à peu près à la même date anniversaire, c'était Meerkat, je ne sais pas si tu as vu ça, sorti à South by Southwest.
J'y étais.
Application assez magique, qui sort, qui cartonne et qui finalement change totalement la donne, c'est-à-dire que ça permet de filmer quelque chose et d'avoir les commentaires des personnes qui regardent en temps réel. Et ils peuvent vous dire caméra à gauche, caméra à droite, interagir. Ça change tout le paradigme, ça, c'est-à-dire que ça change le paradigme qu'on a connu en communication en disant y a un émetteur qui va avoir un message, qui va utiliser un média pour toucher une audience. Là, tout d'un coup, l'audience intervient en temps réel dans le contenu. C'est une rupture, c'est une disruption. Bon, il se trouve que Meerkat a disparu, ça a été remplacé par Periscope notamment, et puis Facebook s'y est mis, et puis YouTube s'y est mis. C'est cette logique du live. C'est juste passionnant, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir construire et on peut construire du contenu en temps réel avec son audience. Ça change toutes les règles qu'on a pu connaître et toute cette logique finalement top-down. Là, non, chaque spectateur devient acteur du contenu en temps réel. C'est une vraie disruption. Si on pousse au-delà de la technologie, ça signifie que c'est une opportunité pour pouvoir converser en fait avec ses cibles, avec ses clientèles, avec son audience, avec des collaborateurs. La conversation, c'est juste clé parce que c'est comme ça qu'on peut construire plus de choses. Voilà, là c'est une belle opportunité. Elle n'a pas encore, je pense, trouvé totalement son marché. C'est parce que ça fait un peu peur aussi, cette logique de temps réel, de live, de mon Dieu, est-ce qu'on risque de ne pas être parfait? Ça aussi, c'est un sujet hein, dans les entreprises, d'accepter un lâcher-prise sur l'imperfection. Donc, il y a une question de maturité. Mais ça va se développer de plus en plus, je pense.
Au sujet de l'imperfection, c'est à peu près tout l'objet de mon prochain livre. Et que l'art de l'imperfection sera la clé de succès à l'avenir. Ça, c'est le sous-titre que j'ai pour l'instant. Ce qui est remarquable dans ce que tu viens de dire, c'est cette idée de pouvoir goûter, échanger. Et puis parce que pour la plupart des gens, j'ai envie de dire, t'as raison, c'est pas leur force. C'est-à-dire que si je dois passer d'Android à Apple ou vice versa, oh putain, tu te perds très vite. Oh là là, c'est de la nouveauté. Ah, ça me sort de mon zone de confort. Ma zone de confort. Et pour la plupart des gens, j'ai envie de dire, c'est ça qui est le problème.
Alors, ce que tu dis sur le passé du monde iOS au monde Android, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe parce que vu le nombre d'utilisations qu'on fait par jour de son téléphone mobile, en fait, on est totalement reprogrammé. On est programmé à l'utilisation d'un operating system et d'une façon de se déplacer. Et j'avoue, même si je suis très gourmand, je pense que j'ai énormément de mal, et ça fait rire beaucoup de gens, quand je mets la main sur un Android, moi qui suis très Apple addict depuis des années, je m'en sors pas tout à fait avec les différents codes, c'est-à-dire que je n'ai pas la gestuelle. Et donc ça demande un apprentissage supplémentaire. Je pense que la grande chose, c'est peut-être une qualité qu'il faut avoir face à ce monde digital, c'est la curiosité. C'est-à-dire se dire, je ne sais pas faire, chouette, excellente nouvelle, je peux apprendre, je peux tester, je peux le faire tout seul dans un coin si j'ai un peu honte, je le peux faire avec des gens qui vont m'aider. Ce que nous apprend la nouvelle génération, c'est-à-dire que la nouvelle génération, ils ne comprennent pas quelqu'un qui dit « je ne sais pas ». En fait, ils sont nés avec ce qu'on a vu naître, hein, on va dire, et ce qu'on a peut-être enfanté, avec Google, avec YouTube, et donc en fait ils ne comprennent pas les personnes qui disent je ne sais pas. Pour eux c'est un truc inconcevable, on n'a pas le droit de dire on ne sait pas, on a tous un accès à cette information. Donc c'est déjà la première des choses, c'est se dire je connais pas, mais je vais me renseigner, je vais aller regarder, je vais me faire mon avis. Cette nouvelle génération, c'est eux qui ont appris l'anglais et qui apprennent l'anglais avec les youtubeurs américains. Là où on pensait, en fait, au départ, moi j'avais des ados qui sont devenus des grands garçons maintenant, mais ils passaient leur temps sur YouTube et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils se mettent à travailler? En fait, non, bah, c'est avec ça qu'ils travaillaient, c'est avec ça qu'ils ont appris l'anglais, avec les youtubeurs américains, puis après avec les séries, et ils sont devenus finalement bilingues en utilisant les outils de leur époque. Idem avec des Facebook ou des Messenger, où cette génération a créé depuis maintenant 5-6 ans, dès qu'ils rentrent dans le premier jour d'école, en fait, ils créent un groupe privé. Alors à l'époque, c'était Facebook, maintenant c'est Messenger, et puis c'est en train de muter sur du Discord ou autre chose. Mais ils créent un groupe de ceux qui sont dans la classe. Il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'adultes, ce ne sont que les élèves. Et puis, ben, ils se partagent. Alors au départ, c'était pour des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on allait partager le cours, on prend une photo du cours pour celui qui était malade. Et puis, on a vu arriver un truc formidable, c'est-à-dire que dès qu'il y avait le devoir maison, le bon en maths, dès qu'il a fini son devoir maison, il prend une photo de ses résultats et il le partage avec le reste de la classe. On pourrait penser, et nous à notre époque, on pouvait penser que c'était triché, c'est-à-dire qu'en fait c'était, ben, non, en fait non, c'est pas triché, c'est-à-dire qu'il va mettre les résultats et puis un autre élève va dire, mais pourquoi dans la question numéro 2 tu as mis cette information-là, j'ai pas compris comment tu as fait le calcul, et ils vont s'auto-apprendre tous ensemble comment ça marche. Et puis comme le bon en maths il fait ça, ben, il y a le bon en français qui s'y met, puis le bon en histoire qui s'y met. Donc ceux qui sont bons sont devenus des gens extrêmement sympathiques, ce qui n'était pas tout à fait le cas moi à mon époque, c'est-à-dire que le bon en maths, il ne voulait pas qu'on copie sur lui. Alors là, ils se partagent les choses. Alors ce qui est marrant, c'est quand ils vont arriver, quand ils arrivent dans les grandes entreprises, ça va être très compliqué de leur expliquer, bon, on est en train de bosser sur un truc comme ça, surtout t'en parles pas à la direction d'à côté. Non, ces jeunes-là, ils arrivent avec une notion qui est tout à fait nouvelle, peut-être pour nous. Avoir du pouvoir, c'est partager. C'est-à-dire qu'en fait, et je pense que c'est tout le socle du digital, c'est le côté, le don. On donne d'abord et on verra après. Ça change toute la façon de penser. Nous, on était plutôt éduqués sur un truc. Bon, si je fais ça, qu'est-ce que je gagne ? Eh bien, il y a plein de sujets où, en fin de compte, il ne faut pas le faire avec un calcul. Il faut dire, d'abord, je vais donner et on verra bien ce qui va revenir. Et ça, je crois que ça change vraiment tout.
Je suis mais carrément d'accord. Dans mon nouveau livre, je parle de l'effet karmique, pour être plus français, et le fait de donner et n'attendre pas en retour distinctement quelque chose, en tout cas, et fait partie des clés de succès de se lancer et puis on verra. dans ton commentaire, tu as parlé de tes ados. J'ai envie de dire, pour bien réussir une transformation digitale, je prescrirais d'avoir deux ados à la maison, un garçon, une fille. Qu'en penses-tu?
C'est une bonne idée. Moi, je n'en ai que deux garçons. c'est vrai que c'est une bonne idée. Non, mais je crois qu'il faut aussi aller au-devant, regarder ce qu'ils font, essayer de comprendre finalement les codes. Ils ont une chance, c'est que eux sont nés avec, mais nous, on a une chance, c'est nous qui avons fait ces enfants qui sont nés avec. Donc, en fait, on avait un coup d'avance. Et peut-être qu'on a aussi un vrai coup d'avance, c'est-à-dire que comme il y a un certain nombre d'outils qu'on ne comprend pas, c'est aussi l'opportunité pour nous d'essayer de les comprendre. C'est-à-dire que là où, vous savez, c'est un peu comme si, on est né avec une fourchette, voilà. Je pense que les premiers qui ont vu arriver une fourchette, ils sont curieux. Ceux qui sont nés avec, qui ont l'habitude, s'en servent juste pour faire une chose. Nous, on a cette chance-là, c'est-à-dire qu'il y a ces nouveaux outils, on peut aussi aller chercher ce qu'on peut en faire de différent. Et donc, à chaque fois, c'est un peu une logique de comment je hack ce système, c'est-à-dire comment avec cet outil-là, je peux le hacker, en faire un autre usage que celui qui était prévu. C'est ce que font nos ados, et je pense que la bonne nouvelle, c'est que c'est pas limitatif, quoi. On a tous accès aux mêmes outils. C'est-à-dire que c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on a les mêmes applis, hein. On a accès aux mêmes applis. Il n'y a pas des applis pour les uns, pour les autres. Par contre, c'est dans la façon de l'utiliser qu'il y a des usages un peu différents. Et ça, c'est très riche. C'est-à-dire qu'il y a des regards croisés sur une application, c'est très intéressant de voir comment les gens l'utilisent, et ça peut donner plein d'idées. Et ces idées-là, vous pouvez après les ramener dans votre business.
Toi et moi, on a à peu près le même âge, et donc des enfants avancés qui nous ont accompagnés, mais il y a quand même pas mal de gens qui restent encore, entre guillemets, derrière leur iPad où ils sont en train de lire Le Monde, au petit déjeuner, au lieu de te dire aux enfants, alors TikTok c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Qu'est-ce qui est bien ce matin? Qu'en penses-tu?
Ouais, je pense que c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce sujet de garder le lien. De garder le lien avec cette génération, mais qui, comme toute génération, a peut-être un regard sur les adultes qui est ils peuvent pas comprendre, ils sont décalés. Enfin, je pense qu'on l'a tous eu à notre époque. Je pense que nos parents, avec leurs parents aussi, ont eu ça. Et donc ça c'est un grand, je dirais, c'est une grande tarte à la crème et qu'on retrouve à chaque génération. Je pense que le sujet, c'est de ramener la conversation là aussi, c'est d'avoir une curiosité. Et une des clés, moi, que je vois, hein, c'est peut-être des personnes qui ont plus de recul, plus d'expérience, plus de séniorité, amènent aussi une capacité de recul, de réflexion à cette génération qui est très agile, qui va très très vite, et on peut peut-être amener un peu plus de sens. Et je crois qu'il y a ce volet aussi où ils sont aussi en quête de sens. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont un usage qui est extrêmement calculé, ils sont en train de remettre les outils à leur place. Alors que peut-être que nous, on est un peu trop collés en permanence sur ces outils. Eux, ils arrivent à avoir une part de recul, c'est-à-dire je pense qu'il y a une maturité qui est en train de s'opérer chez cette génération, c'est une capacité à remettre les outils à leur place. Voilà, donc c'est un outil, une fonction, et puis on sait poser aussi le téléphone, ils sont pas tous accros en permanence. Ils ont compris, hein, tous ces mécanismes, hein, toute cette dopamine donnée par le like, le love et autre chose. Donc eux ont bien compris cette addiction, c'est une drogue et elle est très dangereuse. D'ailleurs, on le voit, hein, les grands opérateurs, les grands réseaux sociaux sont en train un peu de faire marche en arrière sur ces logiques de like, etc., parce qu'on est peut-être allé un peu trop loin dans cette accoutumance, et donc c'est intéressant de dire on va lever un peu le pied sur ces sujets-là, parce que sinon c'est une course sans fin. Donc oui, curiosité, il faut parler aux ces ados, et puis il faut prendre les choses en main aussi. Je pense qu'il ne faut pas être spectateur, je pense qu'il faut être acteur, se faire la main, oser tester, se lancer, et puis si ça ne marche pas, on s'arrête, et puis c'est un peu en mode start-up, quoi. L'exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, moi, mon podcast matinal que j'ai lancé maintenant, c'était en 2017, fin 2017, c'est ça, enfin 2018, pardon, septembre 2018. Celui-ci, je me perds toujours avec
le digital,
je suis vraiment désolé. Ouais, le digital pour tous, c'est un truc qui a muté. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir accès à une version bêta de l'application Twitter audio, en fait. Hein. J'ai cherché ce que je pouvais en faire, j'ai testé des choses, j'ai fait des choses un peu en sous-marin. Et puis, je me suis dit, tiens, génial, moi qui adore faire des podcasts, j'avais commandé par des podcasts vidéo. Là, c'était en 2008 avec mon ami Henri Kaufmann, c'est les vidéos du succès. On a fait 15 millions de vues avec cette histoire-là, une vidéo par semaine. Donc, c'était une sorte de podcast, sauf que c'était en vidéo. Et puis, j'en ai fait d'autres. Et puis là, je me suis dit, tiens, il y a un truc génial, c'est on peut faire du live audio. Ça change tout. Hein. Moi qui faisais beaucoup de périscopes à l'époque en vidéo, passer à l'audio, c'est un truc très intéressant. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucune béquille visuelle. C'est-à-dire que c'est l'audio qui fait le boulot. Mmh. Donc, ça change tout. C'est une nouvelle écriture. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, tu peux refaire un podcast par semaine. Alors, quand vous faites du live en podcast, il faut que vous trouviez une régularité, un rendez-vous, puisque ben, c'est intéressant d'avoir une audience qui prend rendez-vous avec vous. J'ai cherché un jour de la semaine, une heure qui pouvait être récurrente, et n'ayant pas trouvé, je me suis dit, tiens, je vais changer ma façon de réfléchir, c'est que je réfléchis pas assez out of the box, et je me suis dit, ben, change une donnée de l'équation, vu que tu cherches un rendez-vous par semaine, régulier, tu n'y arrives pas, donc change et fais-le une fois par jour. Alors là, déjà, c'est un peu la première question. Et finalement, ça m'a permis de trouver le seul moment dans la journée où je peux faire quelque chose une fois par jour de façon régulière tous les jours de la semaine, c'est quand je vais au boulot le matin.
7h30.
Voilà, alors c'est complètement, c'est une façon de réfléchir qui est complètement folle parce que 7h30, tu te dis, ben, il n'y aura personne parce que les gens sont tous en train de se préparer pour partir au bureau ou bosser ou s'occuper de leurs enfants. Je vais le faire dans la rue. Oh là là, mon Dieu, un podcast. Mais non, mais tu n'y penses pas. Les podcasts, d'habitude, c'est fait en studio. Il y a un bon micro, il y a un compresseur, il y a un jingle devant, il y a ce qu'on appelle un bed, c'est-à-dire que c'est une musique qui va un peu dessous, puis il y a un jingle derrière. Moi, je fais ça, je suis dans la rue, en pleine rue, avec mon smartphone, et je suis parti. Et le truc qui est dingue, c'est de se dire, à un moment donné, il faut se lancer, parce qu'on accepte de... Il faut se dire, oh, mais attends, je ne suis pas parfait, le truc... Mais bon, on se lance, ok, on y va. Et donc, je me suis dit, bah, je vais prendre des sujets sur le digital, puisque moi, bon, je connais un petit peu. Et donc, j'ai démarré avec des premiers épisodes où je me suis dit, bah, j'en fais un par jour, ça démarre à 7h35 le matin, ça finit à 7h58 parce que ben, j'arrive au boulot. Et donc, je pars avec des sujets. Et puis ce que j'appellerais des belles rencontres dans l'innovation. Une amie me dit, ton truc, c'est vraiment bien, mais au bout d'un moment, tu vas être un peu à sec de sujets. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand tu auras parlé de tous tes sujets, c'est si tu arrives à faire 20 fois, mm-hmm. à mon avis, une fois par jour, tu vas ramer. Et elle m'a filé un beau cadeau. Et je me suis dit, mais bon sang, bien sûr, elle a raison, je ne suis pas un surhomme. Donc, et si, finalement, pour m'en sortir, donc je vais être à sec de sujets, parce qu'à un moment donné, je ne saurais pas. Et puis, ça fait une charge mentale de devoir se dire,
qu'est-ce de que quoi je vais leur
parler demain. Ouais, donc ça fait une charge mentale. Je me suis dit, je vais enlever la charge mentale, parce que moi, j'ai un problème de temps, hein, il faut que tout rentre dans une journée, donc j'ai plein d'activités et j'ai un travail toute la journée. Et je me suis dit, finalement, ben oui, je vais poser la question en direct à personnes qui participent à mon live, puisque c'est un live qui est en direct sur Twitter, leur demander de quoi voulez-vous que nous parlions demain. Et donc, c'est eux qui ont commencé à me proposer les sujets. Puis, comme il y avait pas mal de propositions, je leur ai demandé de voter pour sélectionner le sujet qui les intéressait. Et puis, on est parti comme ça. Donc, c'est vraiment un chemin faisant. Et donc, c'est bon, j'avais le sujet du lendemain. Donc, ça, c'est fantastique. Mais sauf qu'à un moment donné, ben, vous n'êtes pas un surhomme non plus. Il y a des sujets que je ne connaissais pas. Et donc, je leur ai demandé, effectivement, de me dire, est-ce que vous pourriez m'aider à préparer le sujet de demain? Voilà, donc, de quoi ça parle. Et là, j'ai autour de moi ce qu'on appelle la Redac Room. Ce sont des personnes fabuleuses qui m'entourent tous les jours et qui, par rapport au sujet, ben, font de la veille, de la recherche, amènent leur point de vue. Voilà, donc on a monté un outil ensemble dans lequel, ben, effectivement, ils posent un certain nombre d'éléments qui permettent de préparer un petit peu le fil conducteur de l'émission du lendemain. Ce qui m'a amené à changer de matériel. Maintenant, j'ai deux téléphones, j'ai deux micros, je suis toujours dans la rue pour pouvoir avoir à la fois un live qui part et puis le conducteur sur un autre téléphone, ce qui me permet de jongler entre un conducteur à peu près calé vers aux alentours de 6h du matin et puis le live pour pouvoir faire des rebonds et faire vraiment un podcast totalement live. Et puis, chemin faisant, on avance encore. Après, j'ai eu un autre retour de quelqu'un qui me dit, bon, ton truc, c'est parce que bon, le live, il est sur Twitter, mais il est aussi diffusé sur les plateformes de podcast, Apple, Deezer, Spotify et Google Podcast, entre autres. Enfin, on doit être maintenant sur une dizaine de plateformes. Mmh. Et puis là, j'ai eu des gens qui m'ont dit, bon, ton truc, c'est vraiment sympa. Mais tu sais, quand on l'écoute, quand on ne participe pas, qu'on n'est pas acteur du quotidien en direct et qu'on l'écoute sur les plateformes de balado, c'est un peu embêtant parce que tu dis bonjour aux gens qui sont là. Il y a une conversation où on se sent un peu exclu quand on écoute ailleurs. Et ça, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, bah, c'est bien, ça veut dire qu'il faut que je recentre en fait, puisque je fais finalement deux podcasts, un qui est en direct et puis une version qui sera prévue pour la réécoute. Donc, je vais faire une partie de conversation de 7h35 à 7h58. Et à l'intérieur de cette conversation, on va enregistrer tous ensemble une capsule de 15 minutes qui, elle, est disponible sur les plateformes de balado-diffusion. Donc, ça, c'était un premier jet. Et donc, ça marche. Et donc, ça veut dire qu'à 7h35, on démarre un live. À 7h58, on le finit en ayant enregistré en même temps une capsule qui est déjà disponible vers 8h10 chez Apple, Google, Spotify. Donc, tout ça dans la rue. Hein. Ça paraît un peu fou hein, de se dire que c'est possible de faire ça dans la rue. Et puis, bonne nouvelle, quand on a fait les 200 premiers épisodes, j'ai posé une question à la communauté, c'était avant un départ en vacances, en disant on arrête ou on continue. Ils m'ont tous demandé de continuer, donc on continue. Et puis qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait changer. Et certains m'ont dit il y a 200 épisodes, c'est extraordinaire. Alors on parle que de sujets sur le digital. L'idée c'est de décrypter, de donner les clés pour mieux comprendre ce monde digital et pour ne pas laisser des personnes sur le chemin. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle un peu l'inclusion numérique, hein, c'est pour éviter ce qu'on appelle en France l'électronisme, c'est-à-dire c'est un illettrisme numérique. Bon, ben, nous, le sujet de ce podcast, c'est donner les clés au plus grand nombre pour comprendre, pas rester sur le chemin et comprendre ce digital, savoir s'en saisir, comprendre ses codes, comprendre ses usages, voilà. Et finalement, ben, enlever un peu le jargon, donner le maximum de clés de compréhension. Et puis, ils m'ont dit, ben, ce qui serait vachement bien, parce qu'il y a 200 épisodes et les moteurs de recherche sur les plateformes de podcast sont juste pas encore au niveau. Hein. On a vraiment beaucoup de mal à trouver les choses. Et si tu faisais un blog, et là j'ai eu un coup de main fabuleux, c'est-à-dire qu'ils m'ont aidé à monter un blog. Le blog s'appelle ledigitalpourtous.fr. Sur ce blog, vous avez tous les sujets dont on a parlé dans le podcast. Donc, il y a un moteur de recherche, c'est une mine d'or. Et puis là, on vient de passer dans une deuxième phase où, en plus des podcasts, on a maintenant le calendrier de tous les événements tech qui ont lieu dans le monde entier. Puis, on ouvre une nouvelle rubrique qui s'appelle les tutos. Et donc là, il y a des rédacteurs. Donc, ce blog, il est fait avec de multiples rédacteurs. Vous pouvez d'ailleurs voir, si vous allez sur le site, la liste de tous les participants à ces articles. On monte les tutos. Et puis, on va monter un glossaire parce que bah, ces gros mots, ce charabia digital, ils méritent un peu plus d'explications. Voilà. Donc ça, c'est une aventure qui est assez extraordinaire. Mais c'est parce que dès le départ, je suis parti sur « on se lance et on va améliorer au fil du temps ».
Et enfin, donc, ensuite, tu as construit une communauté. Et voilà. Par rapport à ce que tu as dit avant, tu as une capacité de lancer. Mais là, tu te fais aider pour pérenniser, élargir.
Voilà, et donc je pense qu'on va avoir plein d'autres. On a en projet, alors il faudra trouver le temps de le monter, mais on voudrait monter des événements en région autour du digital. Donc c'est des rencontres, c'est des tutos, c'est de l'explication, c'est prendre le temps d'expliquer. On est dans le don là aussi, hein. On touche pas un sou hein, sur ce sujet-là, mais c'est de faire en sorte effectivement de donner les clés au plus grand nombre. C'est passionnant. Pourquoi c'est passionnant?
Juste une question pour toi, PPC, parce que tu dis ça, c'est un don. Mais quelle est la petite voix dans ta tête qui permet à pérenniser ça? Parce qu'à un moment donné, enfin, ton temps, ta connaissance, tes expériences sont de l'or.
Je sais pas, mais en tout cas, j'arrive pas forcément à valoriser cet or-là. Mais moi, déjà, c'est la passion, c'est le plaisir. Et puis, il y a un truc, c'est que j'en apprends tous les jours. C'est formidable, il y a des sujets qui ne me sont pas, voilà, que moi j'y connaissais rien. Et un jour j'ai osé le dire en live en disant, mais ce sujet-là, moi j'y connais rien. Et en fait, les retours que j'ai eus par la communauté, c'est que eux, ça leur a fait du bien. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que moi je ne connaisse pas ces sujets, eh ben, ça les a mis aussi à l'aise pour dire, on a le droit de ne pas connaître un sujet.
C'est le sujet de la vulnérabilité. C'est-à-dire que, tout comme Brené Brown, elle parle beaucoup de ça. C'est-à-dire que l'idée de se dire je suis pas parfait, je connais pas tout, alors que toi, qui est quelqu'un qui évidemment est bien au-dessus de la grande majorité, t'es tout de même capable de te dire oui, je connais pas.
Mais c'est super important de ne pas connaître. Et puis ça, d'abord, c'est vrai. D'abord, on ne connaît pas tout. On n'est pas un surhomme ou une surfemme. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire là-dessus. Mais c'est accepter de dire je ne sais pas. Et ça, c'est super important. Et je pense que la clé, une des clés du digital, c'est d'admettre que on n'est pas parfait. Un peu comme les startups, quoi. On démarre et on itère. Et on ne va pas démarrer avec un truc qui est déjà fini ou c'est tout à verrouillé. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand on démarre par on va faire du learning by doing. Vous allez avoir un retour de la communauté et on va pouvoir faire des réglages. On va accepter l'imperfection et on va construire. C'est de la co-construction. Ça, c'est passionnant. D'abord, c'est passionnant à titre humain parce que vous dites, tiens, je suis en train de construire quelque chose et c'est très intéressant. Et puis, deuxièmement, sur tous ces sujets-là, si vous acceptez ce lâcher-prise, en fait, vous êtes beaucoup plus fort en fait. C'est-à-dire que le fait d'être vulnérable rend plus fort. C'est ça qui est assez fou. Et puis troisième sujet, moi tous les jours, j'apprends énormément avec tous ces sujets. C'est-à-dire que, alors j'ai changé tout mon agenda. Aussi ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que j'ai changé aussi avec ce temps. C'est-à-dire que je veux dire, mais comment il fait pour trouver du temps pour ça? Avant j'effectuais une veille, un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que je regardais de façon, alors soit avec un temps qui est composé, soit avec des multiples temps utiles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Qu'est-ce qui se passe dans la techno? C'est un peu cette veille. Je pense que globalement, on est à peu près tous en train de faire un truc qui dure à peu près 1 heure par jour. On doit passer entre 1 heure et 1 heure et demie par jour d'une veille, par petites minutes, par-ci, par-là. Moi, j'ai décidé de changer le truc. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 1 heure à faire une veille dispersée, je ne passe qu'une heure sur une veille sur un seul sujet, le sujet du lendemain. Alors, vous allez peut-être dire, c'est complètement fou, ça. Mais non, en fait, ce qui est génial, c'est que quand vous faites ça tous les jours, un seul sujet par jour, au bout de 20 jours, vous connaissez 20 sujets beaucoup plus en profondeur. Au bout de 40 jours, pareil. Donc, c'est évident que vous devenez plus pointu sur des sujets et ça vous permet ensuite de faire des connexions entre les sujets et de vous amener finalement un peu de recul et une vision beaucoup plus macro sur ce qui est en train de se passer, sur ce monde qui change et sur finalement un peu les différentes évolutions qu'on peut voir qui vont nous arriver dans les années futures. Ça ne veut pas dire que vous détenez la vérité, mais vous commencez finalement à y voir un peu plus clair sur ce qui peut changer dans les entreprises, dans notre vie de tous les jours en tant que particulier ou collaborateur ou chef d'entreprise ou manager.
C'est comme tu dis, c'est un moyen de se lancer sur un grand sujet. Comment je peux devenir digital? Comment je peux avoir un QI digital élevé? Ah bah c'est grand, il y a tout, ça marche partout. Et de la manière la plus intéressante, c'est de commencer à décomposer en petits morceaux, des petites briques. Donc je vais commencer par celui-ci, ensuite celui-là, et le fait en effet de connecter les points, les dots comme j'aime dire, entre eux, ça te permet d'avoir une espèce de complexité de cerveau. Parce qu'en fait, tout est lié quelque part. Et ensuite, tu as un choix d'options à mettre ensemble pour mettre en œuvre ta transformation digitale, par exemple.
Ouais, c'est ça, c'est tous ces champs des possibles, hein. C'est tous ces champs des possibles qui arrivent. Et il faut se dire, alors il y a peut-être dans des technos qui ne verront pas le jour très longtemps, qui vont changer, etc. Mais c'est pas grave, c'est le mouvement en fait. C'est le mouvement. Moi je dis toujours que finalement le sujet de la transformation, c'est un sujet à la c'est du mindset en fait. C'est une ouverture d'esprit et une posture. Et après, il faut se mettre en finalement l'image que j'aime bien prendre, c'est celle du surfeur, vous savez, celle du surfeur. Bon, il doit aller vers la plage. Bon, alors aujourd'hui, la plage, on va dire, c'est le point B. On ne sait plus trop parce que ce point B, il bouge beaucoup. Mais le bon surfeur, c'est celui qui est vraiment placé à l'endroit de la vague où il n'est pas trop devant, sinon il se prend la vague sur la tête, et pas trop derrière, sinon il va aller très 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 loin du rivage. Donc en fait, c'est en permanence. Mais c'est exactement comme quand on se tient debout et quand on marche. En fait, on tient sur un trépied, c'est-à-dire que nos deux jambes, et puis un centre de gravité. Et c'est par le mouvement, et même si on est debout, on a quand même ces micro-mouvements qui nous tiennent debout. Et bien avec le digital, c'est pareil. Il faut toujours être en mouvement, toujours avancer, toujours être dans cette approche-là. C'est ce que nous apprennent nos jeunes générations, hein, qui finalement se forment en permanence. Et on a un sujet, nous, de se former en permanence. Sinon, on prend un peu le tapis roulant dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si on essayait de remonter un tapis roulant qui va dans le sens inverse. Si on reste statique, on recule, quoi. Alors que si on avance, on va pouvoir le dépasser, quoi.
Oui, et ils font cette formation en groupe, c'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à, c'est essentiel d'admettre que je ne connais pas. En fait, j'aime bien parler des trois étapes. Un, je me dis que je connais tout, donc ça c'est le qui sait tout et il va se planter. Je me dis que je ne connais pas quelque chose, donc d'accord, c'est mieux, c'est une espèce de awareness du fait que tu connais pas tout. Mais je dis aux autres que je ne connais pas tout. C'est à peu près ton niveau, enfin c'est ce que tu dis, et c'est ça qui permet d'avoir une crowd sourcing où la foule t'aide à te former.
Ouais, c'est comme ça. Il faut juste que tu coupes là.
Oui.
Attends, je vais mettre parce qu'il faut que j'avais un truc derrière et le temps passe. Ne quitte
pas.
Ah
oui, je vais fermer vite fait. Enfin, j'avais juste une dernière question.
On peut y aller alors si tu veux. Vas-y.
Alors, je parle. Espèce de bourdonnement qui arrive.
J'étais très bavard.
Non, mais t'as raconté une belle histoire.
Et on n'a pas parlé de plein de choses.
Oui, oui, non, mais c'est comme ça.
Ouais.
Ok. Alors, dernière question pour toi, PPC. Grand utilisateur de Twitter, si tu es en face d'un board et tu as une recommandation, un apprentissage, un grand tip à leur donner dans l'usage de Twitter, qu'est-ce que tu leur dirais?
Allez-y, moi je leur dirais allez-y, c'est-à-dire que testez-le, ouvrez le compte que vous voulez, soit c'est un compte à votre nom, soit c'est un compte un peu caché si vous n'êtes pas à l'aise tout de suite, mais allez-y, c'est une vitrine et c'est le fait d'être branché sur une actualité, c'est-à-dire que ça vous permet d'être branché avec vos clientèles, ça permet d'entendre ce qui se dit sur votre marque, ça vous permet d'être branché avec le monde. C'est juste merveilleux. C'est chez Twitter, c'est pas regarder ce que je suis. C'est-à-dire que c'est plutôt, ben, on parle de sujets. C'est une énorme plateforme de conversation. C'est, je crois, la plateforme la plus conversationnelle. Il y a de tout dessus. C'est très riche. C'est le meilleur pouls par rapport aux informations dans le monde entier. On peut suivre des communautés de gens passionnants. C'est juste magnifique et puis ça vous permet d'avoir n'importe quel décideur, journaliste, influenceur, chercheur, écrivain à dispo, c'est-à-dire qu'il est à juste un tweet de vous, donc vous pouvez faire des rencontres merveilleuses. Moi j'avais monté avec mon ami Nicolas Bordas en 2000, oh là là les années, mon dieu, en 2002 on a monté un mouvement qui s'appelle Tweet Bosses.
Bien sûr.
Tweet Bosses visait à aider les grands patrons à passer à Twitter et on a fait des rencontres mais merveilleuses avec un très grand nombre de patrons du CAC 40, de très grandes entreprises qui étaient précurseurs et qui le font eux-mêmes, hein. C'est pas, ils délèguent pas à quelqu'un le fait de tenir leur compte, non, ils le font eux-mêmes pour de vrai, ils sont branchés avec les communautés.
J'en faisais partie de ce mouvement de Tweet Bosses avec Nicolas, j'ai adoré. Ah oui. Comment est-ce que les gens peuvent connecter avec toi, PPC? Quels sont les podcasts que tu as envie de mettre en avant pour nous,
oh là là,
selon tout ce que
alors,
tu fais?
J'ai beaucoup de podcasts qui tournent en ce moment. Alors, il y a le Digital pour tous, ça c'est clair. Vous pouvez déjà aller sur le digitalpourtous.fr qui est le site dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a le podcast qui s'appelle Le Digital pour tous. Le meilleur moyen de se connecter avec moi, c'est de me suivre sur mon compte Twitter, PPC, trois lettres PPC, donc c'est très simple. Et puis sinon, les podcasts coup de cœur du moment, on a Influence, donc ça s'appelle Influence Digitale. Donc là, j'interview parce que je suis parti du principe que l'influence était un mot très galvaudé. Donc je pars à la rencontre de dirigeants d'entreprise, d'influenceurs, de patrons d'agences de communication, et on parle de cette influence numérique. On va donner les coulisses en fait de l'influence digitale et ses différents points de vue. Et c'est vrai que ces regards croisés sont très intéressants. On comprend beaucoup mieux qu'est-ce qu'est l'influence digitale et comment ça fonctionne. Et puis petit podcast coup de cœur aussi, c'est celui qui s'appelle Pour de vrai, que j'ai le plaisir d'animer avec mon ami Jérôme Bonaldi, que vous connaissez tous. Voilà, Pour de vrai. Donc là, ce sont des interviews de patrons de marketing, de patrons du digital, de patrons d'entreprise, et on le fait avec un, ça s'appelle Pour de vrai parce qu'on leur demande de nous parler sans bullshit. Voilà, donc de parler pour de vrai et de raconter ce qui se passe vraiment avec le digital. Vous allez voir, c'est passionnant. C'était un podcast qui est entre 5 et 10 minutes, assez court, qui est mené de main de maître par mon ami Jérôme Bonaldi. Donc je vous conseille de l'écouter, c'est juste magique.
Fabuleux. Que des bonnes histoires, et puis je suis un grand fervent des podcasts, évidemment. PPC, merci beaucoup. Tu peux reprendre une activité normale, comme disaient les guignols. Et au plaisir de te suivre et rester en fervent contact avec toi.
Mille merci, Minter, et beau succès, et j'ai hâte d'avoir ton bouquin.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
Tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still I won't tell the lie. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, put me to the test. I'm a convinced man.
I'm ready, fire and arrest.
I'm a convinced man, in the arms of a woman.
Don't you know that you're a grown-up?
I'm a grown-up.
Me too.
Yep, me too. But you know, these days, being a grown-up can really suck.
Luckily, we're grown-ups who grew up in the coolest generation.
We had video arcades.
And also some of the best TV and movies ever made.
We lived the origin of awesome consumer electronics. The list goes on and on.
Yep, Generation X.
Exactly.
And we're Gen X Grown-Up.
Every week, the Gen X Grown-Up podcast explores media, tech, toys, games, and more from both yesterday and today.
Through the eyes of Generation Xers who absolutely love that stuff. You can find us on iTunes or wherever you get your podcasts.
Or find us on our website, GenXGrownUp.com. Life sucks as a grown-up. All right, you think that was good enough?
I hope so, man. I'm tired.
Who listens to a promo on a podcast and then goes and listens to a different podcast?
Right.
I've never done it.
No. Right.